Nous ouvrirons l'Écriture sainte ce soir dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 35, pour lire un passage tout à fait surprenant. Deux Chroniques, chapitre 35, commencerons à lire au verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchémish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour où on établit la coutume en Israël. Ces chants sont décrits dans les complaintes. Voilà, drôle d'affaire. Vous ne trouvez pas que c'est une drôle d'affaire, ça ? Un Josias, un roi qui vraiment... agit de façon magnifique, hein, de façon admirable. Il suffirait de lire tous les versets qui précèdent. Et de voir, il a ramené le peuple dans la bonne voie, dans le bon chemin. Il était vraiment un moyen pour faire l'œuvre de Dieu au milieu de ce peuple. Et donc, il a réparé la maison de l'Éternel. Et puis voilà qu'il meurt comme ça. C'est impressionnant. Un des meilleurs rois d'Israël qui meurt d'une mort semblable à celle d'Akab, d'ailleurs, un des plus mauvais. C'est impressionnant. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'un païen, ou réputé en tout cas comme tel, l'avait averti de la part de Dieu, et il n'en a pas tenu compte. Il a dû se dire, ben, de toute façon, certainement, il me parle de Dieu, mais moi je suis plus près de Dieu que lui, moi je sais mieux ce qu'il en est. Hein. Je ne sais pas, il a dû se dire des choses comme ça. Et puis le problème, c'était qu'effectivement, Dieu avait parlé par la bouche de Nécho. Voilà. Donc, il y a des leçons à tirer de ça. Il y en a plusieurs. Mais, en tout cas, il y en a une que je voudrais tirer particulièrement, sans m'étendre trop sur cette histoire. C'est qu'il est quand même très dangereux de se mettre en travers de la route de quelqu'un à qui Dieu a dit de se hâter. Parce que dans le verset 21, il le dit, « Dieu m'a dit de me hâter. » Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi de peur qu'il ne te détruise. Et c'est vrai que c'est dangereux de se mettre au travers du chemin de quelqu'un à qui Dieu a dit de se hâter et qui le fait. Parce que Dieu lui donne tous les succès. La preuve, enfin une démonstration est encore là. Effectivement, l'histoire ancienne nous apprend que Pharaon Nécho a remporté une grande victoire à Carchémish. Il n'y a pas que la Bible qui nous le dit, il y a aussi l'histoire ancienne qui nous le dit. Donc, mais notre grand sujet d'aujourd'hui, ce sont les bénédictions que Dieu donne à ceux qui se hâtent d'obéir à ses ordres. Non seulement qui obéissent, mais qui se hâtent de le faire. Dans le psaume 119, au verset 60, il est écrit « Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements ». Et je crois que là, nous avons effectivement une preuve de conversion. C'est-à-dire que quelqu'un se hâte d'obéir à Dieu. Pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Nous devrions le comprendre, parce que nous voudrions bien que Dieu se hâte en notre faveur, n'est-il pas vrai ? Hein ? Quand vous lisez les psaumes, je pourrais vous donner des références, mais vous avez au moins 14 fois où il est marqué dans les psaumes « Oh Dieu, hâte-toi de me secourir !»« Oh Dieu, hâte-toi en ma faveur !» etc. Vous avez 14 références au moins dans les psaumes qui nous montrent que l'homme voudrait bien que Dieu se hâte de le secourir. Et nous pouvons comprendre que Dieu aussi, en retour, nous demande de nous hâter de faire sa volonté. Voilà. Alors, nous pourrions parler d'un certain nombre qui ont été expressément appelés par Dieu à se hâter et qui, ou qui ont compris que c'était une nécessité absolue de le faire. Et Lot, je prends le cas de Lot, lorsque Sodome et Gomorre ont été détruites par le feu, Lot devait se hâter d'aller se réfugier à Tsoar. Je ne vais pas lire toutes les références parce que sinon on n'aura plus le temps de prier après. Mais tout ça se passe dans Genèse 19, du verset 17 au verset 23. Et vous pourriez lire au début du verset 17 et au début du verset 22, il est marqué que Lot était invité à se hâter de le faire. Hein, donc. Et ça nous parle, nous aussi, de la nécessité de nous hâter de sortir du monde, de ces façons de faire, pour échapper au jugement qui vient. Donc, se hâter pour se sanctifier. Et le problème de Lot, c'était quoi? Le problème de Lot, Lot était un croyant, vous savez, Lot, hein? Mais le problème, c'était quelqu'un qui tardait. Et il est marqué au verset 16, au début du verset 16 du même passage, et comme il tardait. Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Lot? Il aurait déjà dû partir rapidement avec les anges, hein, et puis il n'aurait même pas dû demander à aller se réfugier à Tsoar. Il aurait beaucoup mieux fait de courir se réfugier où? Avec Abraham, bien sûr, hein, avec Abraham, parce qu'Abraham, lui, il était à l'abri. Et Abraham, eh bien, il faisait partie de ceux qui s'étaient séparés. Hein, c'est la sanctification, c'est ça, séparé de ce monde de péché, et c'est séparé de ces gens de Sodome et de leur fonctionnement. Il était lui, le conducteur de tout ce groupe, de ceux qui s'étaient mis à part pour cela. Donc, il aurait dû se hâter pour aller là. C'est ce qu'il aurait dû faire. Bon, voilà, c'est tout. Nous passons à Prénote, le peuple d'Israël, cette fois-ci, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont en Égypte, qu'ils sont sur le point de sortir de l'Égypte. Ils sont invités à manger l'agneau pascal, la dernière nuit qu'ils sont encore en Égypte, avant le début de leur exode. C'est dans le livre de l'Exode, justement, chapitre 12, du verset 7 au verset 11. Et là, ils sont invités à manger l'agneau pascal à la hâte, c'est marqué, à la hâte. Donc, et pourquoi? Eh bien, parce qu'il fallait qu'ils partent. Il fallait qu'ils partent sans hésitation, il fallait qu'ils partent rapidement, parce que c'était en quelque sorte la fenêtre d'opportunité et qui se présentait pour le faire. S'ils attendaient, s'ils tardaient, eh bien Pharaon, qui déjà avait beaucoup, beaucoup résisté à Dieu, avait beaucoup agi pour les empêcher de partir, eh bien certainement Pharaon allait encore rapidement changer d'avis. Donc, mais ça nous parle aussi. Ça nous parle aussi parce que nous, ce n'est plus l'agneau pascal que nous avons à manger, mais c'est, en tant que croyants, c'est la Sainte Cène, hein? La Sainte Cène, c'est le rappel donc du sacrifice qui a été offert par Jésus-Christ. C'est le rappel de l'agneau pascal qui donc lui était aussi là en attente de la venue de Jésus-Christ et du sacrifice qu'il devait offrir sur la croix. Et ça nous parle de cette nécessité de prendre la Sainte Cène, hein. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils disent, ben moi, ils décident eux-mêmes pour une raison X ou Y de ne pas prendre la Sainte Cène. Ça, c'est un problème. Je dis franchement, c'est un problème, parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Mangez-en tous, buvez-en tous. Donc, en général, quand une personne fait ça, ben, c'est qu'elle pense qu'elle n'est pas dans la bonne position, elle n'est pas dans la bonne attitude vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire que dans sa vie, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait ne pas prendre la Sainte Cène, ou est-ce qu'il faudrait régler le problème? Évidemment qu'il faudrait régler le problème. Hein, et la parole et ces personnes-là, en ne prenant pas la Sainte Cène, eh bien, elles font une double désobéissance, en fait. Parce que d'une part, elles tardent à régler leur problème, et d'autre part, elles n'obéissent pas à l'ordre du Seigneur de prendre la Sainte Cène. Alors, elles vont dire, ah, mais je vais me prendre un jugement. Mais tu es déjà sous le jugement. Si tu restes dans une attitude où tu ne veux pas régler ton problème, tu es déjà sous le jugement. Donc, la meilleure solution que tu as, c'est de demander pardon au Seigneur, le plus rapidement possible, de prendre la Sainte Cène. Et puis, si tu as quelque chose à régler avec quelqu'un, que tu le règles le plus facilement possible. Ça, c'est la normale des choses, voyez-vous. Et ça, c'est important. Hein, c'est une chose à rappeler. C'est une nécessité. Ensuite, si j'avance un peu, qu'est-ce que je vois? C'est que David, dans une autre situation, là, c'est dans 2 Samuel chapitre 5, au verset 17 à 25, nous avons cette situation où David est invité à prendre une victoire sur l'ennemi, prendre une victoire sur les Philistins qui sont là. Et dans le verset 24, il doit se hâter quand il entendra le bruit des bruits de pas dans les mûriers, il doit se hâter de les suivre pour obtenir cette victoire. Donc se hâter, parce que Dieu n'attend pas. Quand l'occasion se présente, eh bien, c'est à nous de saisir l'occasion. Ce n'est pas à nous de dire, oh Seigneur, attends que je finisse de me préparer ou je ne sais pas trop quoi. Non, il faut y aller, il faut foncer. Dieu nous donne des occasions, il faut les saisir. Si David ne s'était pas hâté à ce moment-là, aurait-il été vainqueur? On ne le sait pas, probablement non. Ou alors, en tout cas, la victoire lui aurait certainement coûté beaucoup plus cher que dans cette situation où ils ont donc pu vaincre là aussi l'adversaire, et ça aurait certainement pas été la faute de Dieu, ça aurait été la faute de celui qui n'avait pas saisi l'occasion. Je lis encore dans 2 Rois au chapitre 4, verset 22, et les passages qui précèdent et qui suivent, le cas de la Tsunamite. Cette Tsunamite, rappelez-vous, cette femme qui avait été vraiment un moyen de soutenir le prophète Élisée. Et il nous expliquait comment, miraculeusement, alors qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, eh bien, Dieu fait un miracle en réponse donc à la parole de foi du prophète. Et voilà qu'à un moment, eh bien, cet enfant meurt. Et alors, que fait-elle? Eh bien, vous pouvez remarquer qu'elle se hâte, elle ne perd pas de temps. Elle ne perd pas de temps à se lamenter, elle ne perd pas de temps à parler à gauche, à droite. Non, tout de suite, elle se hâte, c'est dit dans le verset 22. Donc, elle se hâte d'aller vers l'homme de Dieu et pour lui exposer la situation. Et Élisée, vous remarquez qu'il va faire comme elle, en retour. C'est-à-dire qu'il va donner les instructions à son serviteur Géasi, au verset 29, et lui a dit là aussi de se hâter, de ne pas perdre de temps en chemin, de ne pas se laisser distraire par rien, de se hâter d'aller là-bas directement et d'accomplir l'acte de foi qu'il fallait accomplir. Bon, il semble que Géasi n'a pas été à la hauteur de la situation, mais malgré tout, elle a obtenu le miracle. Pourquoi? Parce que le prophète a suivi, il a suivi dans le même état d'esprit, et donc, je dirais, quelque part, ça a été cette hâte qui manifestait la détermination de la foi. Voyez-vous, elle s'est immédiatement confiée en Dieu seul. Et comme on dit, elle a mis le paquet, quelque part. Elle a, on peut dire encore, battu le fer pendant qu'il était chaud. Et donc, elle a obtenu le miracle de Dieu par sa foi et par sa détermination et sa hâte de la foi. Et puis après, nous en revenons à Écho, donc, dont nous avons parlé, notre texte de départ, qui était appelé à se hâter pour vaincre l'ennemi. Voilà comment un homme qui n'est pas forcément, en tout cas, bon, qui avait une crainte de Dieu, de toute évidence, mais et qui a compris que si Dieu lui parlait ainsi, c'est qu'il y avait une occasion à saisir. Et puis, s'il ne saisissait pas l'occasion, ce n'était pas sûr qu'il l'aurait après. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il fallait y aller le plus vite possible. Ce n'était pas le moment de discuter avec l'un, avec l'autre, en cherchant le meilleur avis de l'un, le meilleur avis de l'autre, la meilleure stratégie de l'un, s'assurer que tout le monde est d'accord, que sais-je. Il s'agissait d'obéir à Dieu sans tarder. Et ça, c'est aussi, évidemment, cette grande priorité qui lui a assuré cette grande victoire. Dans le Nouveau Testament, je lis aussi, par exemple, c'est mon sixième exemple, celui de Zachée. Zachée aussi, dans son arbre, rappelez-vous, dans son sycomore. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. On le voit bien, Luc 19, versets 1 à 9, spécialement les versets 5 et 6. Et nous voyons qu'il s'est hâté, effectivement, de descendre. Il s'est hâté d'accueillir Jésus dans sa maison. Il s'est hâté aussi de se repentir. Il s'est hâté de réparer ses péchés et de réparer ses torts. Et c'est pour ça. C'est pour ça que Jésus a pu dire, ce qu'il ne disait pas forcément, vous savez, il y avait des gens qui venaient à Jésus et s'imaginaient que Jésus allait leur dire un chemin de facilité pour aller au ciel. Non, Jésus ne disait pas ça. Souvent, on voyait que ces gens repartaient plus ou moins désarçonnés, désorientés. Mais là, dans ce cas, il dit clairement, le salut est venu aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Israël. Donc, et il l'a dit clairement, et il l'a affirmé avec force. Et puis, en mon septième exemple maintenant, c'est Paul, Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, qui dès le départ est appelé à se hâter. Tout de suite, il lui dit donc là c'est dans il donne son témoignage dans Actes 22 verset 13 au verset 21, et là nous voyons qu'au verset 16 Ananias lui dit, et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés. Et donc, nous voyons que, là encore, Paul, c'est quelqu'un qui va réaliser qu'il faut se hâter de s'engager dans les voies de Dieu. Hâter de s'engager dans le service de Dieu. Et je crois que le secret de ce grand apôtre, en tout cas, un secret absolument basique, se trouve là. C'est-à-dire dans le fait de ne pas résister à Dieu, dans le fait de se hâter. Et c'est parce qu'il se comportait comme cela qu'il a travaillé plus que tous les autres, qu'il a pu saisir tant d'occasions et que Dieu aussi l'a approuvé, l'a accompagné et béni ainsi, et qu'il va avoir aussi une si belle assurance à la fin de sa vie. Amen. C'est Spurgeon donc, qui parle de la promptitude à faire la volonté de Dieu, la promptitude à faire le bien. Et il donne une image, il dit, quand il faut faire une impression dans la cire fondue, que la main doit être rapide. Si vous la laissez refroidir, vous presserez le seau en vain. Elle devient rapidement dure et froide. C'est pourquoi il vous faut accomplir le travail rapidement. Quand les cœurs des hommes sont ramollis par la parole de Dieu, ou par la maladie, ou par la perte d'êtres chers, les serviteurs de Dieu, les fidèles, devraient se hâter d'imprimer la vérité dans les cœurs ainsi préparés. De telles occasions devraient être saisies avec un sens de l'urgence plein de foi. Si tu aimes le Seigneur Jésus, hâte-toi avec le seau avant que la cire ne refroidisse. Voilà. Ah donc ce que Spurgeon nous dit. Donc nous voudrions aussi bien sûr parler de quelqu'un qui on pourrait appeler peut-être par certains côtés le Paul de l'Ancien Testament. Donc un homme animé du même état d'esprit qui a lutté aussi fidèlement et qui l'a fait avec succès jusqu'au bout. Que Dieu a soutenu aussi tout au long d'une façon comparable et dont la devise était aussi de se hâter. Là, j'ai parlé de Josué. Alors là, Josué, lorsque vous lisez son livre, eh bien, vous pouvez voir, et là, il est question vraiment fréquemment de se hâter et des bénéfices et des grandes victoires qu'il y a eu à la clé. On peut encore en donner quelques exemples, quelques occasions. Déjà, quand il s'est agi de traverser le Jourdain pour entrer dans le pays promis. Là, nous sommes dans Josué 3, verset 1er, Josué 4, verset 10. Et là, c'est marqué que déjà, d'une part, les préparatifs pour traverser le Jourdain ont été faits rapidement par Josué. Et ensuite, lorsque le Jourdain a été à sec, eh bien, dans l'exécution de cette traversée, au moment du miracle, là aussi, le peuple se hâta de traverser. Et ils ont eu raison de faire comme cela. Parce qu'après, le Jourdain est revenu dans ses rives aussi rapidement. Et ça nous parle. Et ça nous parle aussi de notre engagement à nous, dans le pays promis. Lorsqu'on se convertit, il ne faut laisser rien en arrière. Il faut se donner entièrement. Et puis, il faut couper les ponts et ne pas tarder à le faire. Et si ce n'est pas encore fait aujourd'hui, eh bien, il faut le faire dès aujourd'hui et immédiatement. Amen. Lorsque vous regardez pour la prise de Jéricho, un peu plus tard. Là, nous sommes dans le chapitre 6 du livre de Josué, verset 12 au verset 15. Vous voyez que cet obstacle, pour eux, c'était quelque chose d'insurmontable. Jamais ils n'avaient réussi à conquérir, enfin, ils ne savaient même pas comment faire pour s'emparer d'une ville fortifiée avec des murs. Ils n'avaient aucune expérience de la chose, ils n'avaient pas les moyens de siège, ils n'avaient rien de tout ça. Donc, c'était un obstacle, ça représentait un obstacle insurmontable. Mais, voilà, Josué a eu des instructions, et il est marqué, Josué se leva de bon matin. Et ça, c'est quelque chose qui revient dans ce livre de Josué. Se leva de bon matin, ça veut dire qu'il s'est hâté. Il s'est hâté dès le matin pour obéir, l'obéissance de la foi, même sans comprendre, et vous savez comment, jour après jour, pendant 7 jours, ils ont fait comme cela, et que le 7e jour, et même, ils ont fait cela toute une série de fois, et comment la muraille est tombée, comment la victoire merveilleuse en a été la conséquence. Et je crois que dans nos vies, il peut y avoir aussi des forteresses qui sont encore à prendre. Des forteresses dont nous ne savons même pas forcément comment nous allons faire pour nous en emparer. Et voilà un exemple tout à fait remarquable qui est là pour nous. Et puis ensuite, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont été présomptueux. Hein, cette victoire de Jéricho, ça leur a quelque part monté à la tête. Et puis ils se sont dit que pour la petite ville d'Haï à côté, ça allait être une formalité. Hein. Et puis ils n'ont pas demandé au Seigneur. Hein. Ils n'ont pas demandé au Seigneur. Et ils ne savaient pas qu'il y avait de l'interdit au milieu d'eux. Hein. Voilà. Donc c'était à cause d'Acan. Bon, je n'entre pas dans les détails. Mais voilà, parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu. Ils ont pensé que ça allait se faire sans problème. Donc ils se sont retrouvés en position de défaite. Ils se sont retrouvés en position de défaite, ils ont été battus à Haï, ils ont eu plusieurs dizaines de morts. Et alors que faire? Et alors que faire? Et c'est là que c'est intéressant. C'est que là encore, chapitre 7 au verset 16, Josué se leva de bon matin. Il s'est hâté de chercher la raison des choses. Il s'est hâté de se mettre dans la bonne position devant Dieu pour savoir ce qui s'était passé. Quelle était la cause pour laquelle il y avait eu cette défaite et ce qu'il fallait faire. Et c'est parce qu'il s'est hâté depuis le matin qu'effectivement, ce jour même, Dieu leur a parlé et Dieu leur a expliqué la raison. Et ils ont pu enlever la raison, ils ont pu enlever l'interdit. Et dès que les causes ont été, les raisons ont été enlevées, eh bien, ils ont été rendus vainqueurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous parle. Vous savez, quand on se trouve dans une position d'échec, ce n'est pas la peine de se lamenter, ce n'est pas la peine d'accuser Pierre, Paul, Jacques, ce n'est pas la peine de se trouver toutes sortes d'excuses, etc. Il vaut beaucoup mieux se mettre tout de suite devant le Seigneur, hein, demander au Seigneur qu'il nous montre quelle est son volonté, qu'est-ce qu'il y a éventuellement à transformer, qu'est-ce qu'il y a également à remettre en ordre dans nos vies. Hein, et de cette manière-là, eh bien, Dieu pourra aussi se glorifier sans tarder. Et puis après, nous voyons pour l'histoire d'Haï, nous sommes maintenant au chapitre 8, nous avançons un petit peu, et nous voyons que là aussi, eh bien, cette fois-ci, ils n'ont pas sous-estimé Haï. Hein, Josué n'a pas sous-estimé Haï. Et là encore, vous retrouvez cette expression, il se levait de bon matin, hein, donc une ville de peu d'importance, mais qui avait été la cause d'une grande défaite. Et ça, ça doit nous parler, vous savez, parce que nous aussi, hein, on est faible comme l'eau. Hein. Nous aussi, on peut avoir eu à un moment certaines grandes victoires par le secours du Seigneur, et après, si on ne veille pas, on peut être abattu par une bricole. Hein. À tous, c'est quelque chose qui peut nous arriver et qui nous arrivera si on ne veille pas. Hein. Donc, Haï, nous l'avons dit, c'était une petite ville, mais là, non, eh bien, là, ils ont pris les mesures qu'il fallait prendre dans cette lutte sans merci, hein, que nous avons nous aussi contre le péché. Et donc, de cette manière, là encore, ils ont été rendus vainqueurs. Vous retrouvez dans le chapitre 10, là, une autre situation. Donc, se hâter pour lutter contre de nombreux ennemis. Toujours à nouveau, bon, vous avez la promesse déjà, verset 8, que Dieu a fait à Josué de le rendre vainqueur. Au verset 5, il nous est expliqué la grandeur, la grande taille de la coalition d'ennemis qui s'étaient rassemblés contre Israël. Et puis, dans cette situation-là, il nous a expliqué qu'ils se sont levés encore demain matin, qu'ils sont allés, ils sont partis, ils se sont hâtés encore pour aller à ce combat avec la foi dans la fidélité à la parole de Dieu, la promesse du Seigneur. Et de versets 11 à 14, il nous a expliqué la victoire qui a été donnée. C'était une victoire, je dirais, à l'échelle de la taille de l'adversaire. Hein, donc bien plus grande, par exemple, que celle d'Haï qui a eu auparavant. Mais en tout cas, la grande raison, c'est qu'ils se sont hâtés de saisir les promesses et de les mettre en pratique avec foi, est-il marqué, okay, marchant toute la nuit depuis Gilgal. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils se sont vraiment hâtés. Et puis, vous avez encore au chapitre 11, à une échelle encore plus grande, versets 6 à 12. Donc, là, il y a une promesse. Promesse aussi qui contient un ordre. Hein. Et le Seigneur explique que la victoire leur serait donnée s'ils étaient sur place dès le lendemain. Hein. Donc ça voulait dire encore marcher toute la nuit. Hein. Donc la promesse était là. Et ça donne quelque part, ça devient presque un principe d'action maintenant chez Josué. Donc avec quelle foi, on pourrait dire presque de plus en plus téméraire s'ils ne s'appuyaient pas sur Dieu et sur sa parole. Mais nous pouvons voir son entière obéissance. Il ne se confie pas dans les moyens. C'est Dieu lui dit, vous couperez les jarrets aux chevaux, ça veut dire vous les tuerez pour ne pas pouvoir les utiliser, et vous détruirez les chars de fer au feu. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? C'est l'ordre qu'il leur donne. hein, face à tous ses ennemis. Eh bien, si pour que justement, ils apprennent, ou du moins ils gardent dans leur cœur de se confier en Dieu seul. Parce que s'ils s'emparaient de tous ces moyens-là, de tous ces chevaux, tous ces chars de fer, au lieu de se confier en Dieu, ils se confieraient dans les moyens, voyez-vous. Et donc, nous voyons qu'effectivement, Dieu a donné une pleine victoire ce jour-là, et il a donné une série de victoires ensuite, dans les jours qui ont suivi, en cascade quelque part. Pourquoi ? Bien parce que justement, Josué a exactement fait ce que Dieu lui demandait, hein, en particulier donc au niveau de ses fameux chars de fer et au niveau de ses chevaux. Et au verset 15, il est marqué que Josué ne négligea rien de tout ce que Dieu lui avait dit. Parce qu'il s'est hâté d'obéir, il a vu ainsi se réaliser toutes les promesses du Seigneur. Amen. Et le problème après, parce que le livre de Josué, vous savez, il est divisé en deux parties. Hein. Vous avez effectivement, jusqu'au chapitre 11, vous avez toutes ces séries de victoires, et après, ça devient beaucoup moins évident. Hein. Après, on s'aperçoit que Josué, ce qu'il essaye de faire, c'est de transmettre ce même état d'esprit aux responsables des différentes tribus qui, à leur tour, doivent conquérir leur propre territoire. Donc, il essaie de leur transmettre ça. Puis, qu'est-ce qu'on voit ? Hein, eh bien, on voit qu'il y en a qui viennent vers lui et puis ils disent, mais nous, on ne peut pas. Puis, notre territoire à nous est trop difficile. Et pourquoi les autres ont-elles ? Vous voyez, commence à contester, commence à discuter, chacun. Voilà. Et puis, qu'est-ce que Josué leur adresse comme reproche ? Mais il leur dit, mais jusqu'à quand négligerez-vous de conquérir le territoire que Dieu vous a donné? Donc ils avaient établi, ils avaient partagé le pays, ils avaient sur un plan, ils avaient déjà donc établi la part de chacun. Et puis, donc il va leur donner, au chapitre 18, là au début du chapitre 18, un avertissement solennel en leur disant, mais il faut que vous arrêtiez de négliger, il faut que vous vous hâtiez de faire ce que Dieu veut. Il faut que vous hâtiez de vous emparer des promesses de Dieu, puis que vous alliez avec la force que vous avez, et le Seigneur vous soutiendra. Et il leur avait montré cet exemple toute sa vie, voyez-vous. Mais nous voyons que malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, eh bien après, ça va être le début des compromissions et des mélanges. On le voit, chapitre 15, verset 63, chapitre 16, verset 10, chapitre 17, verset 12 à 13, donc, qui ont résulté donc, de cette négligence, de cette tiédeur, de ce manque de foi. Et puis, ça va être le début de l'idolâtrie qui va commencer à se répandre au milieu d'eux par contagion. Avec les peuples du pays, les mauvais calculs d'intérêt aussi, parce qu'ils se disent bien, plutôt que de les chasser, on va plutôt les mettre sous un tribut, ça nous rapporterait de l'argent, hein, voyez, comme ça. Et puis, ça a été le début aussi de leur faiblesse. Et c'est pour ça que vous retrouvez toute une série de fois, ils ne purent pas, ils ne réussirent pas à chasser les adversaires qu'ils auraient dû chasser. Chapitre 13, verset 13, chapitre 15, verset 63, chapitre 16, verset 10, chapitre 17, verset 12, chapitre 17, verset 16. Et là, nous voyons, je dirais quelque part de manière négative, mais l'importance de se hâter d'obéir et de le faire de tout cœur et de le faire avec foi. Amen. C'est vrai. En conclusion, eh bien, voilà. Je crois que nous avons donné toute une série de passages, une série d'exemples qui nous rappellent combien le désir de Dieu est celui de bénir, combien les promesses de la terre et du ciel sont pour ceux qui se hâtent et qui ne diffèrent pas, d'une part de se convertir déjà, de recevoir Jésus comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Si parmi nous, il y en a qui ne l'ont encore pas fait, ben je crois que ce début d'année, c'est vraiment une occasion pour le faire et pour voir la différence entre l'année qui va se passer et les années précédentes. Voilà. Et puis aussi, se hâter de garder les commandements de la parole de Dieu, les mettre en pratique, et se hâter de s'engager dans l'œuvre du Seigneur, pour y travailler avec ardeur, de s'engager dans le combat pour Dieu. Béni soit le Seigneur qui veut accomplir ses promesses pour ceux qui se comportent ainsi, pour ceux qui se décident de cette manière, que Dieu les soutienne et les fortifie. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, et nous te bénissons, parce que nous croyons que ta parole est vivante et efficace, que ce que tu as accompli pour ces hommes et femmes de Dieu qui se sont confiés en toi, Seigneur, bien tu veux le faire encore aujourd'hui, tu veux le faire pour chacune et chacun d'entre nous. Et merci, Seigneur, parce que eh bien, tu es véritablement celui qui mérite qu'on se hâte pour toi. S'il y a quelqu'un qui mérite qu'on se hâte, eh bien, c'est bien toi, Seigneur. Et c'est pour cela que ce jour encore, eh bien, pour nous saisir, saisir avec conviction de cette bonne parole, Seigneur. Et merci parce que tu veux nous fortifier dans cette résolution. Tu veux nous fortifier dans ces bons désirs. Et merci, mon Dieu, pour la manière aussi dont tu veux intervenir ainsi en faveur des tiens et spécialement les exaucer dans leurs prières. Sois glorifié, notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia.